Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous allons pouvoir nous parler avec franchise et sincérité. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a donné hier le coup d'envoi du dialogue national. Sur le papier, toutes les forces vives de la nation ont jusqu'au 30 avril pour tenter de réformer en profondeur les institutions qui dirigeront le pays une fois la transition terminée. D'ailleurs, il reviendra aux participants de fixer la durée de cette période. Dans son discours, Brice Oligui Nguema a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des questions politiques. Ce dialogue, a-t-il dit, doit mettre en avant les préoccupations économiques et sociales des Gabonais et de rappeler que les conclusions de ces discussions seront traduites en texte de loi, puis soumis à un référendum constitutionnel. En tout cas, la liste des 600 participants choisis par le général Oligui Nguema est loin de faire l'unanimité. On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission. Des voix dénoncent un dialogue exclusif et non inclusif. Trop de militaires, trop de personnes acquises à l'organe de la junte militaire, pas assez de représentants des partis politiques. Voilà ce qu'on entend parmi les détracteurs de ce dialogue national. Alors partagez-vous ces critiques ou au contraire, pensez-vous que ce dialogue constitue un véritable espoir pour le Gabon? 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns tout au long du débat pour alimenter la réflexion. On commence avec vous, Justin. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les visiteurs de RFI.
Dans quel état d'esprit êtes-vous après le lancement officiel hier de ce dialogue national?
C'est la sérénité qui m'irradie, je suis parfaitement serein, parce que ce dialogue était important, il était important que nous le tenions, non seulement après le 30 août, et même bien avant, parce que le tissu social était complètement en délitement, les gens ne se parlaient même plus. Il fallait absolument qu'on se retrouve pour refonder la République, pour refonder notre Gabon. Je suis absolument un peu triste d'entendre certains compatriotes disent que ce dialogue ne doit pas se tenir ou qu'il n'est pas correctement organisé.
Oui.
Mais je considère qu'en 90, on a organisé la conférence nationale. Il y avait à peu près 200 participants. Mmh. Là, nous sommes à 600.
Oui, effectivement. Ça a été rappelé hier, d'ailleurs, dans son discours par Brice Oligui Nguema, à conférence nationale en 1990. Il y avait 300 participants, 600 aujourd'hui. Ça dit quoi, justement? Ça dit vraiment que le Gabon a vraiment envie de donner la parole au plus grand nombre?
Mais regardez le caractère éclectique des participants, M. Juan Gomez. Vous avez pour la première fois les acteurs de la société civile. Vous avez pour la première fois les acteurs du domaine économique et social. Tout le monde est appelé à participer à ce dialogue. C'est dire qu'un consensus général est recherché. Et c'est pour cela que j'invite, comme le président Oligui Nguema l'a fait, tous les Gabonais à s'approprier ce dialogue et accompagner nos compatriotes qui y seront.
Mais vous savez que les Gabonais comme vous, hein, Justin, ont encore en mémoire la conférence nationale de 1990, les accords de Paris de 1994, les accords d'Arambo de 2006, il y a eu un dialogue politique en 2017, il y a eu des concertations politiques avant la dernière élection présidentielle en février 2023. Tout ça, pourquoi même le général Oligui Nguema a dit tous ces rendez-vous ont été manqués?
Mais Juan Gomez, justement, parce que c'était juste des rencontres politiques et politiciennes. Mmh. C'est cela le problème. La différence aujourd'hui avec le dialogue qui s'est ouvert hier, c'est que, je l'ai dit tantôt, c'est éclectique, tout le monde est là-dedans. C'est pour cela que l'aventure est à poursuivre et à accompagner.
Ouais. En tout cas, vous êtes optimiste, Justin, s'il fallait choisir une priorité.
C'est la modification naturellement des dispositions électorales pour une plus grande transparence des élections, de sorte que le président issu de ces élections ait toute la légitimité et les coups de franche pour gouverner un pays.
Donc une nouvelle loi électorale.
Tout à fait.
C'est ce que vous attendez. Merci Justin. Bonne journée à Libreville et bon dialogue national. Henri nous a écrit également du Gabon. Il nous dit attendre de véritables changements. Nous avons une occasion unique de faire de notre pays une référence en matière de démocratie en réformant profondément nos institutions. Il nous faut une réconciliation nationale, nous dit Henri, pour nous permettre de penser les plaies du passé et regarder désormais vers le futur. Bonjour Étienne.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous êtes beaucoup moins optimiste que Justin à l'instant. Hein. Vous avez l'impression que, voilà, de ne pas attendre grand-chose finalement.
Bon, c'est un sentiment quand même mitigé, hein, parce que nonobstant le fait qu'il y a eu quand même 600 participants et près de 38 000 contributions. On se pose quand même la question de savoir pourquoi est-ce que le choix, au niveau de choix des participants, s'est fait sur la base, le critère retenu par les dirigeants eux-mêmes. On aurait souhaité que les dirigeants laissent la latitude aux partis politiques de désigner leurs représentants. Donc c'est un peu ce qui nous désole un peu.
Puisque vous parlez des partis politiques, les partis avaient la possibilité dans un premier temps de présenter 4 représentants. Et le dernier mot est revenu au général Brice Oligui-Nguema qui, parmi les 4, en a choisi un.
Oui, mais...
Sans vouloir chipoter, la personne qui représente tel ou tel parti, c'est sur proposition des partis eux-mêmes.
Oui, mais Juan, quelle est la souveraineté que vous donnez à ces participants s'ils ne sont pas directement choisis par la base, par leur parti politique ou bien par des religions, les confessions religieuses? Donc vous voyez, donc déjà à partir de ce moment, il y a déjà un problème de souveraineté. Donc il fallait laisser la latitude aux partis, bien qu'ayant proposé, mais il fallait qu'ils choisissent directement leurs représentants à ce dialogue.
Et donc vous n'attendez rien du tout de ces discussions?
Bon, c'est pas qu'on attend rien, on attend beaucoup de choses. On attend quand même que le code électoral soit révisé. Sur le plan économique et social, on voudrait également que le pouvoir d'achat des Gabonais puisse être revu à la hausse. Donc, il y a quand même des attentes, mais c'est quand même un sentiment mitigé. Parce que, comme je disais au départ, je ne vois pas la souveraineté de quelqu'un que vous décidez pour assister à un dialogue que vous-même vous organisez. Donc... voilà quoi, la personne, on peut dire, c'est ce qui laisse beaucoup d'interprétations.
Et c'est ce qui fait dire à Ludovic, qui nous a écrit du Gabon, ce dialogue national risque de ressembler au précédent dialogue. Et il cite notamment 90, 94, 2017 ou encore 2023.
Bon, je ne partage pas tellement son avis, hein, parce que j'ai vu depuis le 30 août hein, que les militaires quand même font un effort de tenir à leurs engagements. Donc hier encore, lors de la cérémonie d'ouverture, le président l'a rappelé qu'il fera un effort, qu'il fera tout pour que les résolutions soient traduites soit en texte de loi et d'autres résolutions donc au référendum.
Donc le discours de Oligui-Nguema vous a quelque peu rassuré. Merci Étienne, bonne journée à Libreville. Hyacinthe, soyez le bienvenu, bonjour. Hyacinthe, êtes-vous là? Bonjour. Non, un petit problème peut-être, on va le rappeler ou pas. Si le réseau ne passe pas, on ne peut rien faire. Cédric, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale.
À Port-Gentil, qu'attendez-vous de ce dialogue national dans votre pays?
Oui, je n'ai pas pu écouter tous mes prédécesseurs. Oui. Moi, je suis de ceux qui sont un peu optimistes. Après avoir écouté le discours du président hier, qui a fait une sorte de d'étalage de tout ce qui s'est passé avant, et surtout des engagements qu'il a pris pour que tout ce qui sortira du dialogue sera transformé en texte de loi, c'est déjà quelque chose de fort. Et je sais que le président sait que beaucoup de Gabonais l'attendent au tournant, et que ces promesses seront scrutées à la loupe. Juan, moi, je voulais préciser... Oui.
Allez-y, non, je ne voulais pas vous interrompre.
Mais je voulais préciser que, et vous l'avez déjà mentionné, hein, que le Gabon a compté à ce jour plusieurs concertations que vous avez cité, Paris, à Rambo, en Gondje.
Effectivement.
La particularité de toutes ces constatations, c'est qu'elles ont toutes été politiques.
Ouais. Et c'est ce qu'a dit hier le président de la transition, Brice Oligui Nguema. Les termes, les thématiques abordées, cette fois-ci, iront au-delà des questions politiques. Ce dialogue, dit-il, met en avant les préoccupations économiques et sociales légitimes des Gabonais.
Oui. C'est la première fois. C'est la particularité de ce dialogue, c'est qu'il se passe à la suite d'un coup de liberté, comme on a tendance à l'appeler. Et les attentes des Gabonais sont très grandes, le président le sait. Mais je reviendrai à j'ai envie de poser, qu'attendent réellement les Gabonais?
Qu'attendent réellement les Gabonais? Et vous-même, vous-même, qu'attendez-vous?
Moi-même.
Oui.
Je pense que le maître mot, c'est qu'on attend tous et unanimement un changement total de paradigme, de la manière avec laquelle le pays sera géré pour les prochaines années. Mmh. Ce changement de paradigme amène un changement réel, une réforme des institutions, dont la suppression des CFN qui ne servent à rien, et c'est unanime chez certains Gabonais. Il y a des institutions qui ne servent pratiquement à rien, qui ne servent qu'à à loger un peu des camarades et des anciens qui sont là. Une autre chose aussi, c'est que les Gabonais attendent que le pays arrive à produire des lois qui rendent les institutions fortes. On a toujours tendance à le dire, mais ce qu'on observe, c'est que les gens qu'on met dans les institutions ne sont pas souvent forts. Et ces gens ont toujours tendance à être reconnaissants de ceux qui les nomment. Mmh. On attend à ce que ce dialogue arrive à produire un système de loi qui mettrait... qui permettrait aux institutions d'être fortes, que les gens
des institutions
ne se sentent pas redevables.
Ouais. Il y a Sainte-Marcelle, j'ai l'impression que si je vous laisse le micro, vous allez jusqu'à la fin de l'émission, tant vos attentes sont importantes. Je le comprends, je l'entends, mais il y a d'autres auditeurs qui souhaitent prendre la parole. En tout cas, on a compris l'essentiel de votre analyse et surtout de vos attentes. Bonne journée, Cédric. Et là, on accueille Hyacinthe, avec qui on avait un petit souci de téléphone il y a quelques instants. Bonjour Hyacinthe.
Désolé.
Mais vous n'y êtes pour rien, vous savez, ça nous arrive aussi tous les matins, on a des problèmes avec les réseaux de téléphone, mais tant bien que mal, on y arrive et on vous donne la parole. Hyacinthe, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je vous pose la question parce que vous faites partie de ceux qui ne remettent pas du tout en cause le manque d'inclusivité de ce dialogue.
Non, je ne remets pas en cause l'inclusivité du dialogue. Je fais beaucoup plus... je suis circonspect, en fait. On ne peut pas juger quelqu'un sur les actes qu'il n'a pas encore posés ou sur des actes posés par d'autres personnes. Et le président de la RCA, qui est le médiateur de la CAC, le rappelait hier, on ne peut juger un homme politique que par les actes qu'il a commis. Moi, je suis plutôt circonspect. Je vous ai dit, l'expérience du passé a montré, et les autres intervenants ont raison, que les dialogues n'ont pas servi à grand-chose. Et aujourd'hui, on a quand même une ouverture qui nous fait dire qu'on va peut-être réussir à changer la gouvernance de ce pays, parce que d'une part, ce sont les militaires qui sont au pouvoir, ils ont pris le pouvoir, ils ont associé les civils, donc ce sont eux qui sont à la manette, et généralement, on fait confiance aux militaires quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire.
Bon, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent dans d'autres pays où il y a eu des coups d'État ces deux, trois dernières années... ont le même avis que vous sur le respect de la parole donnée par ceux qui ont pris le pouvoir, par les putschistes. Voilà, mais ça, je ferme la parenthèse. Hyacinthe, quelle est votre priorité numéro un?
La solidification de la Constitution. La solidification de la Constitution pour qu'elle ne soit plus remaniée à la seule volonté d'un homme qui embarque une bande de copains pour s'asseoir autour d'une table pour barrer les articles de la Constitution. Vous savez, dès qu'on a une Constitution forte, on a forcément une gouvernance claire qui va se soumettre à cette Constitution qu'ils ne pourront pas remanier. Vous savez, le président...
Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, il y a Joseph qui nous dit sur WhatsApp, il faut revenir à la Constitution de 1990.
Je ne sais pas s'il faut revenir à la Constitution de 1990. Ce que je souhaite, c'est une bonne Constitution. Vous savez, quand il y a eu un problème de port d'armes aux États-Unis avec des bandits qui rentraient dans les écoles tirer des enfants, j'ai été ému de voir le président américain en larmes parce qu'il était incapable de changer sa Constitution sur le port d'armes.
On se souvient effectivement des larmes de Barack Obama, effectivement.
Donc, quand on a une constitution qui est en béton, les dirigeants, les gouvernants ne peuvent plus se permettre les caprices de la changer chaque fois. Et l'espoir est d'autant plus grand pour moi que le président Oligui a dit hier qu'il va soumettre cette constitution à l'approbation de la population, ce qui résout le problème de légitimité posé par un de mes prédécesseurs hier qui demandait sur la base de quelle légitimité les gens vont... Et lui, il préfère partir du haut et soumettre et donner au travail la légitimité qu'il fait et qu'il faut en la soumettant au peuple. Voilà la grande attente que moi j'ai. Tout le reste, le code électoral, ce sont des détails qui vont être accrochés à la Constitution.
Mais qu'il y ait un référendum constitutionnel, que le peuple puisse s'exprimer par la voix des urnes, valider ou non les conclusions du dialogue national, j'ai comme l'impression que c'est un point qui a vraiment marqué les esprits hier dans le discours de Brice Oligui Nguema. Je vous lis le commentaire de Théo. Il attend de ce dialogue que le peuple gabonais se réconcilie avec le pouvoir exécutif car le peuple n'était plus souverain et vivait dans un système dictatorial avec les bongos qui sont restés au pouvoir pendant 55 ans. Aloïse lui attend une vraie réforme du Gabon. Bon voilà, c'est dit, c'est vaste et en même temps on peut mettre tout ce qu'on veut dans cette phrase. Toussaint lui cite une série de secteurs importants, l'agriculture, la culture, l'éducation, la justice, la santé, voilà les points essentiels qui devront être débattu au cours du dialogue national. Et vous, Edgar, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes assez dubitatif, hein. Vous ne croyez pas vraiment en ce dialogue. Vous dites que ce ne sera pas un dialogue franc.
Oui, parce que, Juan, vous allez remarquer qu'il y a des absences, comme l'ancien candidat, Albert Ondosa, qui n'est pas là. Vous allez remarquer que Paulette Oyan n'est pas là, qui est une grande avocate qui a souvent défendu pendant le système Bongo. Vous allez remarquer que les victimes même de 2016 ne sont pas invitées, alors qu'ils ont des morts, ils sont infirmes. Bon, c'est la question que moi je voulais me poser.
Excusez-moi, vous parlez des victimes de 2016, juste pour précision, parce que j'ai suivi dans son intégralité le discours de Brice Oligui Nguema, discours commencé par une minute de silence, justement, en hommage à tous les Gabonais qui sont tombés en 2016.
Oui, mais Juan, chez nous on dit que le vet est mieux quand on l'écoute de la bouche du joueur de vet. Mais eux-mêmes ne sont pas invités. Le collectif est là. Le collectif, non, mais il faut inviter le collectif. Il fallait inviter le collectif pour mieux donc, partager ce qu'eux vivent au quotidien.
J'entends bien, mais alors Edgar, l'ensemble, enfin une grande majorité de Gabonais ont envie de tourner la page, ont envie de renouveau. Fallait-il reprendre, excusez-moi, les caciques, ceux qui sont et ceux qui dominent la vie politique gabonaise depuis 20, 30, 40, 50 ans?
Mais Juan Gomez, vous avez la liste, ceux qui sont revenus là. Ceux qui sont revenus, c'est également des anciens, des caciques. Ceux qui sont revenus sont des caciques. On aurait voulu que ça soit ceux qui ont porté la voix des sans-voix, comme Paulette Oyan. Comme Maître Paulette Oyan.
Donc vous remettez
en... Quel Gabonais qui peut dire que Maître Paulette Oyan ne pouvait pas participer à ce dialogue et apporter son expertise? Ouais. Quel est ce Gabonais?
En même temps, il y a 2 millions de Gabonais. Fallait-il, je ne sais pas, organiser des assises avec plus d'un millier de personnes?
Non, on ne dit pas un millier de personnes. On dit qu'il fallait quand même, il y avait quand même certains qui sont fait démarquer, comme Geoffroy. Pourquoi Geoffroy n'est pas le compile citoyen? Moi, bon. J'aurais bien voulu que ça soit lui.
Donc dubitatif. Je vous interromps, on arrive malheureusement à la fin de ce débat. C'était passionnant. On aura l'occasion, évidemment, de vous redonner la parole à plusieurs reprises, hein, tout au long de ce dialogue national, dont les travaux, les véritables travaux, sont censés démarrer aujourd'hui. Demain, on parlera de la République démocratique du Congo. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme s'installe à la primature, Judith Touluka. Elle était jusqu'à présent ministre du Plan. Elle a été nommée première ministre. Alors effectivement, elle n'est pas très connue du grand public. Elle est membre du parti présidentiel, l'UDPS. Elle est originaire du Congo central. Que vous inspire cette nomination? On a envie de vous entendre. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. 33 9 693 693 70. Passez tous une belle journée. À l'écoute de RFI, bien évidemment. Prenez soin de vous. Et à demain, 8h10, TU.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, gros plan tout à l'heure sur les maladies du système digestif.
Oui, troubles du transit, douleurs, gêne intestinale, syndrome du côlon irritable, ballonnement, pas toujours facile d'en parler, pourtant ces problèmes de ventre peuvent être compliqués à gérer et à supporter au quotidien. Alors vous allez poser vos questions, vous allez témoigner, on a un nouveau numéro WhatsApp justement pour poser toutes ces questions. C'est le 33 7 61 18 46 41, 33 7 61 18 46 41.